Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Coagulation des colères, prévision des colères des étudiants toujours plus nombreux et une réforme de l'accès à l'enseignement supérieur qui attise cette colère. 1 600 000 étudiants étaient inscrits à la fac à la rentrée 2017. Ce chiffre ne devrait cesser d'augmenter compte tenu notamment de la démographie, une discipline qui en 1964 avait dessiné les prémices de la révolte étudiante de mai 68 et qui rétrospectivement pourrait peut-être expliquer celle de 2018. Bonjour Michel Van Steen, vous êtes économiste et ancien administrateur de l'INSEE. Alors, en 68, que s'est-il passé du point de vue de la colère des jeunes? Celle-ci était-elle prévisible?
Bon, ce que vous appelez colère, c'est au fond une réaction plus ou moins brutale à des situations inattendues. Et puisque vous prenez l'exemple de mai 68, on peut voir mai 68 de deux manières. Une première manière comme, je dirais, une période singulière qui commence en mars 68 et qui se termine en juin 68 avec toutes les manifestations connues et puis ce slogan en fond « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Ça, c'est une première vision. Mon point de vue est différent. Moi, je dirais que 68, mais soit les événements de mai 68, sont un moment dans une évolution engagé depuis longtemps, qui se poursuivra longtemps, une évolution de la société très largement prévisible. Et les événements de 68, au fond, n'ont été que un moment, une réaction au sein de cette évolution, avec effectivement une convergence d'inquiétude, de mécontentement, qui a pris des formes, elles, non prévisibles. Mais pourquoi c'était prévisible ? Essentiellement à l'époque pour le baby-boom. Alors pour montrer le processus à l'œuvre, je prendrai un exemple tout à fait inattendu, c'est celui du marché matrimonial.
Le marché matrimonial.
Voilà. De quoi s'agit-il ? Le baby-boom, c'est le passage brusque en 1946 de 600 000 naissances par an à 800 000 naissances. Mmh. Et ça va continuer pendant longtemps et c'est à peu près le niveau actuel. Or, et ça, c'est ce qui intéresse les économistes et les sociologues, il y a quelques caractéristiques extrêmement stables dans les sociétés, notamment la société française, en particulier l'âge au mariage. Ou plus exactement, la différence d'âge au mariage. 2 ans et demi en moyenne, les hommes se marient un peu plus tard que les femmes, et l'écart, depuis qu'il y a des statistiques en la matière, c'est à peu près 2 ans et demi. Or, si on reprend l'exemple du baby-boom, 20 ans plus tard, vous allez avoir 400 000 jeunes filles qui seront en quête d'un mari, et en face, génération précédente, 300 000 hommes, je dirais...
Un déséquilibre, donc.
Voilà, un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il commence la première année, il va s'amplifier la deuxième année, et en 64, les démographes avaient prévu que le maximum du déséquilibre aurait lieu en mai 68.
Vous êtes en train de dire que l'écart entre le nombre de filles en âge de se marier et le nombre de garçons peut expliquer la colère et notamment les événements de 68.
En partie, mais c'est évidemment, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il est intéressant parce que d'une part, on ne l'a pas du tout évalué et que parmi l'ensemble des phénomènes qui ont précédé mai 68, celui-là est tout à fait emblématique. Pourquoi ? Parce que concrètement, dans une société, ce déséquilibre entre, disons, le nombre de femmes ayant envie de se marier en face du nombre d'hommes, s'est traduit par quelque chose qui était prévisible, c'est-à-dire beaucoup plus de couples illégitimes, beaucoup plus de naissances non souhaitées, donc des avortements, donc une pression pour et la libéralisation de l'avortement et l'autorisation de moyens de contraception, qui a fait partie du contexte. Et de l'autre côté, une société qui était très réticente, de par ses valeurs morales, à cette évolution.
Alors, donc ça, c'est pour votre explication, ou en tout cas la mise en perspective de 68. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe, Michel Van Steen ?
Alors, le baby-boom n'a pas d'équivalent. L'augmentation du nombre d'étudiants qui est réelle est sans commune mesure avec celle qu'on avait observée en 68. En 68, en quelques années, on était passé de 150 000 à 500 000 étudiants. Donc, il y avait un vrai problème, je dirais purement technique, d'accueil de ces étudiants. C'est pour ça d'ailleurs que pour que la Sorbonne n'étouffe pas, on avait créé Nanterre pour accueillir tous ces nouveaux étudiants. Il n'en reste pas moins que dès 64, on constatait un mécontentement étudiant, et dès 64, on a assisté à des manifestations, des occupations d'université, l'occupation par la police, et, bon, même un exemple, la première victime de la répression policière en 64, c'est une fille, une étudiante de Lyon, qui a été condamnée à une forte amende parce qu'elle avait donné un coup de parapluie à un policier. Voilà 64. Donc on avait déjà tous les éléments, je dirais, d'un problème qui allait se poser en s'amplifiant. Et ce qui peut expliquer, à l'époque 68, aujourd'hui le mécontentement de vous parler, c'est le décalage entre un phénomène qui est prévu et le manque de réponse qu'il y a d'une part du côté des politiques et une attente, je dirais, de quelque chose de la part, dans le cas présent, des étudiants.
Alors, en l'occurrence, quel est ce décalage et quelle est cette attente, Michel Van Steen ?
Je pense qu'il y a, au départ, un mécontentement face à une situation et face, quelque part, à l'impuissance ou la non-prise en compte du problème par l'autorité publique. Maintenant, est-ce que ça suffit ? Certainement pas. En 68, comme apparemment aujourd'hui, il y a non pas une convergence des luttes, mais une accumulation des problèmes, une accumulation des déséquilibres et des tensions, vis-à-vis duquel le pouvoir public est largement démuni, même s'il prétend pouvoir s'y attaquer. En réalité, le temps de réponse pour, je dirais, réduire un peu ces déséquilibres et ces tensions est sans commune mesure avec celui qui se manifeste dans l'attente des manifestants.
Mais on a toujours, en fait, un déséquilibre démographique. On a, en l'occurrence, un accroissement du nombre de retraités. On a quand même une augmentation sensible du nombre d'étudiants. Donc, même si on n'est pas dans une configuration de baby-boom, Michel Van Steen, on est quand même dans une situation où la démographie pèse sur la société.
Absolument, absolument. Alors, aujourd'hui, je dirais que c'est plus tellement les effets du baby-boom direct, parce que le papy-boom d'aujourd'hui, c'est la conséquence du baby-boom de 46. Mais ce problème démographique donne la mesure des difficultés. Maintenant, les déséquilibres et les tensions vont se retrouver ailleurs. Elles vont se retrouver notamment sur le plan économique. Et là, les moyens pour réduire, pour résoudre les problèmes sont extrêmement difficiles et impliquent des choix politiques qui ne vont pas de soi.
Justement, en un mot, comment contrer ces déséquilibres ? Comment les anticiper, Michel Van Steen ?
J'irai par le débat politique. Le débat politique doit, en principe, s'engager bien avant, ou devrait s'engager bien avant, que les déséquilibres s'amplifient de manière à permettre à la fois une pédagogie et un débat.
Merci Michel Van Steen. Je rappelle que vous êtes économiste et ancien administrateur de l'INSEE.